Chapitre 2. Il est étrange de s'intéresser avec tant d'ardeur à des choses indifférentes quand, auprès de soi, il serait important d'entreprendre en paix l'étude d'un cœur dont dépend le bonheur de la vie. Durant 2 mois, nous errâmes de villes en villes et tombâmes en admiration, à heure fixe, devant les monuments qu'il convient de contempler avec les générations qui nous ont précédés et celles qui nous suivront. Dieu, que j'étais lasse de l'admiration! J'aspirais au moment où, délivrés de cette vie creuse et agitée, nous pourrions nous trouver nous-mêmes dans l'intimité de notre intérieur. Enfin, un matin, que, seul dans une odieuse chambre d'hôtel, je regardais tristement tomber la pluie d'orage qui crépitait sur les pavés de la rue, Louis entra et me dit « Demain, nous reprenons le chemin de l'Anjou ». Il avait, la veille, manifesté l'intention de poursuivre le voyage, et il me consultait rarement sur l'itinéraire qu'il comptait suivre. Aussi, dans ma surprise, fus-je sur le point de jeter un cri de joie et de soulagement. Mais je savais déjà, par expérience, qu'il n'aimait pas les mouvements spontanés, et je me contentais de confier à mes mâles mon intime satisfaction. Nous arrivâmes à Rocheplate la nuit, une nuit tiède et sereine. La propriété, située sur un coteau dominant la Loire, avait dans ce clair-obscur un aspect qui enchanta mes instincts d'artiste. Des domestiques gourmets nous attendaient pour nous administrer d'une main ferme la douche d'un accueil glacé, avec la mine de gens qu'une offense particulière porte irrésistiblement à exercer cet acte de représailles sur l'humanité. Le château, insuffisamment éclairé, avait l'air rechigné d'un bonhomme maussade que l'on dérange à une heure indue. Mon mari, à moitié endormi, de méchante humeur, s'impatientait et gourmandait tout le monde. J'entrai dans ma nouvelle habitation, les yeux humides, le cœur un peu gonflé, luttant contre le désir de passer mes bras autour de Louis et de lui dire « Enfin, ici, je vais comprendre et vous connaître, car évidemment, nous ne nous connaissons pas bien. Nous allons nous aimer, être heureux. Plus d'agitation, de musée, d'objets indifférents entre nous. » Mais je n'osais pas. Il m'intimidait horriblement. Pendant le premier mois de notre union, j'avais cru bien faire en laissant parler librement mon cœur et ma pensée. Mais devant son attitude de plus en plus froide, je m'étais replié en désordre sur moi-même. Je me répétais que, ne connaissant pas les hommes, j'avais été imprudente, que c'était absurde de m'être ainsi élancée au pas de course dans une terre inexplorée. Mais parfois, je me disais également qu'il était bien singulier qu'en amour, l'art fût utile et l'observation si nécessaire, bien singulier que l'expansion affectueuse et confiante d'une jeune femme ne parût pas agréable à un mari. Lorsque le lendemain j'ouvris ma fenêtre, la vue délicieuse que j'avais devant moi contribua à dissiper momentanément les ombres qui voilaient mon ciel de jeune mariée. Rien de joli comme le parc fleuri qui s'étendait devant l'habitation, comme la vue du fleuve dont l'eau scintillait par endroits sous les rayons d'un chaud soleil de septembre, pendant qu'au loin il se perdait dans les vapeurs du matin. « Soyons raisonnables devant ces premiers mécomptes, » me dis-je en passant une robe de maison d'un rose pâle que j'avais choisie avec soin, pensant qu'elle lui plairait. « Peut-on s'apprécier dans une course au clocher comme celle que nous venons de faire? Les meilleurs caractères ne sont pas toujours faciles en voyage. Moi-même, maintenant, je me ferai mieux connaître et je lui réserve plus d'une surprise. » Je m'empressai d'aller le rejoindre dans le jardin où je l'avais aperçu. « Je trouve cette propriété charmante, lui dis-je. Vous ne me l'aviez pas assez vantée. » « Elle n'est pas mal, et sans aller bien loin, on peut chasser. C'est son principal avantage à mes yeux. » « Que cet intérieur me plaira. Je sens que je vais y être bien heureuse, si vous continuez à bien m'aimer. » dis-je timidement, parce que les battements de mon cœur se précipitaient. « Je suis enchantée que cette maison vous plaise, » me répondit-il d'un ton indifférent. je n'avais pas prononcé sans effort le mot qui était une allusion à des inquiétudes encore presque inconscientes, et un léger souffle glacé passa sur moi. « Voulez-vous que nous fassions ensemble le tour du propriétaire ? » dis-je gaiement en lui prenant le bras pour l'entraîner. « Impossible, ma chère. Je vais à l'instant chez Marien qui doit être chez lui. Nous avons à organiser des chasses. » « Mais Louis, vous avez le temps. Restez avec moi. Je ne connais rien ici. Ce sera triste de tout visiter sans vous. » « Bah, Geneviève, vous vous débrouillerez bien toute seule. Je ne puis pas attendre plus longtemps. J'ai dit d'atteler et la voiture doit être prête. » Il dégagea son bras de mon étreinte, mit tranquillement ses gants en sifflant un air de chasse et, silencieuse, je le conduisis jusqu'à sa charrette anglaise. Au moment où il partait, je levai les yeux, cherchant les siens d'un regard aimant. Mais il s'empara des guides et s'éloigna sans songer à moi. Je m'avançai de quelques pas dans l'avenue, m'arrêtant pour regarder sans plaisir la campagne couverte de rosées. Je me disais que c'était joli et qu'en admirant ensemble, nous dissiperions peut-être les nuages qui nous séparaient. Lorsqu'il revint sur ses pas et me cria « Geneviève, je déjeunerai avec Marien et le ramènerai dîner ici. Faites en sorte que tout soit bien. C'est le cas de me prouver si vous avez l'esprit pratique, ce dont je doute un peu à vous dire vrai, si j'en juge d'après la couleur de vos robes. » Sur cette aimable phrase, la voiture s'en va définitivement. L'esprit pratique. Comment peut-il savoir s'il me manque, puisque nous sommes arrivés la veille, puisque depuis notre mariage, nous visitons des cathédrales et bâillons dans des musées. Il ne faut pas beaucoup d'esprit pratique pour monter des escaliers en colimaçon, s'aller planter sur des tours, afin de mieux admirer une vue que la brume ou le vertige vous empêche de voir, pour regarder des tableaux poussés au noir, écouter des maussaderies qu'on ne vous ménage pas et s'ennuyer à périr. Fort heureusement pour moi, la maison avait été confiée à la garde d'une femme de charge entendue et je la trouvai en ordre du haut en bas. Après avoir pris possession de mon domaine, donné mes ordres, combiné avec Carl le menu du dîner, je me fis conduire chez mon père. Quoi ? 8 semaines seulement que je n'ai vu mes vieilles allées herbues ? Quelle est la femme qui les parcourt aujourd'hui et franchit d'un bond les pierres du vieux perron ? Hélas, je ne sais. Elle me paraît bien compliquée et je ne la définis pas encore avec ses deux personnalités, celle qui a vécu dans ce cadre suranné et la nouvelle femme que la vie réelle et non plus un vieux pastel, est en train de façonner. Mais ces pensées glissent sur mon esprit qui fait un violent effort pour ne pas s'assombrir et j'entre en souriant dans le salon. « Geneviève, c'est toi !» Le mot n'est rien, mais l'accent si tendre. Ah, ici aucun doute sur l'affection qui m'accueille et que les vieilles tentures elles-mêmes semblent m'exprimer. Personne ne m'attendait, on me croyait encore sur les rondes routes. En un instant, la maison est sans dessus-dessous. La fine accourt entre-temps menu, ses mains ridées, humides encore de l'eau qui lui a servi à humecter son linge. Les domestiques, leurs cheveux blancs hérissés de satisfaction et d'étonnement, sans doute, courent sur les ordres de mon père chercher M. de Méran et Mme Séveline qui arrivent essoufflés. Ces bons petits vieux, en extase devant moi, m'examinent comme si 20 ans ont passé sur ma jeunesse et s'étonnent de trouver chacun de mes traits à sa place habituelle, sans l'ombre même d'une petite ride. « Tu n'es pas changée du tout, ma chérie, » dit mon père. « Eh bien, jeune dame, » s'écrie Méran en se frottant les mains avec de petits mouvements saccadés, « avons-nous eu tort de vous engager à épouser ce charmant garçon ?»« Sa figure dit que non, » répond pour moi Madame Séveline. Ici, la fine, qui m'observe depuis son entrée dans le salon, prend une physionomie que je connais bien quand quelque chose ne va pas à son gré et se mouche avec un bruit formidable. Il m'accable de questions auxquelles je m'efforce de répondre avec gaieté. Mais, à mesure que j'avance dans mon récit, je ne sais pourquoi mon cœur se serre et je sens les larmes me gagner. « Je veux parcourir le vieux jardin, dis-je en me levant pour amener une diversion. Mon père prend mon bras et, appuyé sur moi, fait lentement le tour de son petit domaine. Arrivé sous mes grands arbres, je tombe dans une profonde rêverie. Il y a si peu de temps que, à cette même place, il m'a dit un mot qui a dilaté, ravi mon cœur. Se peut-il que j'aie eu tort d'y ajouter une foi si vive ? Je me penche un instant sur les liserons encore fleuris, témoin de ma joie, de mon espoir enivrant. Je les supplie de me répondre, de me dire ce qu'ils ne peuvent, hélas, me révéler. « Toujours rêveuse, mignonne !» me dit mon père en souriant. « C'est là, murmurai-je, qu'il m'a dit un jour. »« Qu'il t'aimait, parbleu !» s'écrie Méran. « Voyez-vous cette petite fille qui croit que nous sommes trop perruques pour deviner les amoureux ?» Et leur bon rire tremblotant de petits vieux me fait mal. La fine est déjà retournée dans sa lingerie, fis-je en feignant de regarder autour de moi. Il est temps bientôt que je parte et je veux la revoir avant de m'en aller. Je me dirige en courant vers la maison. La fine, d'un air méditatif, s'est remise à humecter son linge. Il est clair que son esprit travaille et que je suis l'objet de son souci, moi qui incarne ses plus profondes affections, celles qu'elle a eues pour ma mère et l'amour qu'elle a pour moi. Me voyant seule, elle me dit aussitôt « Eh bien, mon trésor, je ne suis pas de l'avis de votre papa. Je vous trouve changé et maigri. » « Je t'assure que non, je ne m'en suis pas du tout aperçu à mes robes. » « Je n'ai encore que 63 ans, mademoiselle, madame, et je suppose que je n'ai pas déjà des yeux de taupe. Êtes-vous contente, au moins? Est-il ben bon pour vous ?»« Oh, je crois bien, » dis-je, pendant qu'une rougeur subite colore mon visage. « Tant mieux, parce que, voyez-vous, ma chère dame, moi qui ai vu tant de choses dans les familles où je vas en journée depuis bientôt 50 ans, je sais que, souvent, dans le commencement, ça ne va pas tout à fait bien. »« Vraiment? Pourquoi ? » demandai-je en détruisant machinalement la symétrie des mouchoirs qu'elle vient de ranger devant moi. « Parce qu'il faut le temps de s'accorder, mais ce n'est qu'un moment à passer. » On s'habitue l'un à l'autre et on s'aime bien tout de même. Est-ce que c'est souvent comme cela, la fine? Bien souvent, mais ça ne dure pas, ma chère mignonne. Ma chère vieille petite bonne femme, m'écriai-je avec émotion. Je prends sa tête à deux mains, sans me soucier de froisser le beau bonnet brodé à ruches énormes, objet de son innocente vanité, et j'embrasse ce vieux visage dont la laideur se métamorphose aux yeux de tous ceux qui connaissent l'âme renfermée dans ce corps de petite vieille. Avec son expérience, son tact, son bon sens, la merveilleuse divination de son cœur, elle m'a dit le mot qui peut me rassurer et me faire du bien. Elle sait aussi probablement qu'il suffit d'un rien pour alléger le fardeau d'un esprit jeune et confiant. En revenant chez moi, je me dis qu'elle a raison, que bien évidemment, ne connaissant pas encore le caractère de mon mari, je suis plus déroutée par l'inconnu que par des réalités. En arrivant à Rocheplate, j'étais joyeuse et ne songeais plus qu'à mes espérances. Devant la maison, mon mari et son ami m'attendaient. Dans mes effusions avec les miens, le temps avait passé rapidement et j'arrivais tard. Louis m'accueillit avec un froncement de sourcils qui m'inquiéta. Il s'approcha de la portière, non pour m'aider à descendre, mais pour me dire à voix basse, d'un ton si dur que je trouvais bon de m'élancer instantanément dans l'épouvante. « À quoi pensez-vous de rentrer si tard? C'est ridicule, sachant que vous avez quelqu'un à dîner. » « J'en suis au regret, balbutiai-je. C'est un tort, mais bien excusable dans la circonstance. » En tout cas, Geneviève, que le fait ne se renouvelle plus. Son ton autoritaire m'eût révolté si je n'avais pas été littéralement terrifiée. Ainsi réconforté, je sautai hors de la voiture et Louis me présenta M. Marien, dont l'air aimable m'aida à sortir de l'état piteux dans lequel moi et mon moral avions soudain sombré. Je regrette bien de ne m'être pas trouvée ici à votre arrivée, lui dis-je timidement. mais il y avait si longtemps que je n'avais vu mon père que je n'ai plus songé à l'heure. « Je regretterai qu'il en fût autrement, madame, » me répondit-il d'une voix chaude et sympathique. « Votre place était là-bas, et c'est moi qui dois m'excuser d'avoir cédé dès aujourd'hui aux instances de Louis. » Cette réponse, qui contrastait avec les paroles de mon mari, me fit tant de plaisir que, spontanément, je lui tendis la main comme à une vieille connaissance. C'était un homme de 35 ans environ, aux mouvements un peu gauches, malgré son habitude du monde, et dont le visage avait été modelé par une main aussi maladroite que la sienne. Il riait en lui-même, et de sa laideur, et de sa maladresse qui étaient proverbiales. Mais rien de plus sympathique que son caractère bon enfant, son laisser-aller sans familiarité, et sa bonté devenue proverbiale comme sa maladresse. Au moment où, me retirant pour enlever mon chapeau, je fermai la porte, il s'écria « Tous mes compliments, Donnel. Quelle femme charmante! Quel visage original! Elle a des yeux merveilleux et… » Je n'entendis ni la suite ni la réponse de mon mari, mais la pensée qu'il serait flatté de l'enthousiasme de M. Marien me ranima, et pendant le dîner, je m'efforçai d'être bien moi-même, ce qui ne m'était pas arrivé depuis 6 semaines, le système réfrigérant auquel j'étais soumise n'ayant jamais eu pour résultat de dilater la nature humaine. Après le dîner, il reconduisit M. Marien et je l'attendis assise dans le jardin. Le calme de cette soirée me jetait dans un courant d'impressions que je voulais partager avec lui. Chaque chose me parlait de l'amour que j'avais donné, qui se sentait refoulé et ne demandait toutefois qu'un mot pour reprendre son libre essor. À mesure que les minutes s'écoulaient, j'étais pénétré d'une émotion profonde et douce. « Quelle soirée délicieuse, cher Louis !» m'écriai-je quand il revint auprès de moi. « Jamais je ne me suis senti plus porté à vous dire !» Mais le nuage ne s'était pas dissipé. Son air froid me retint sur la pente de l'expansion, et, perdant subitement mon élan, je repris avec timidité « Je suis désolé de vous avoir contrarié. Oublions cela et… » Je pris sa main et la tendresse de mon geste achevait ma phrase, mais il n'eut l'air ni de le remarquer, ni de comprendre que, mon cœur débordant, je n'avais qu'un désir, me jeter dans ses bras. « C'est assez étonnant, Geneviève, ce que vous vous êtes permis de faire aujourd'hui. » « Ce que je me suis permis ? » dis-je étonné en laissant tomber sa main avec découragement. En ce moment, une bande de courlieux passa très haut. Leurs cris perçants, quoique atténués par la distance, rompirent le silence du soir. Il me parut qu'ils avaient un accent triste et gouailleur qui saluait avec ironie la perte d'espérances humaines dont ils se moquaient. « Sans savoir si la chose me convient, sans rien me demander, vous faites atteler et allez passer l'après-midi je ne sais où. »« D'abord, vous savez bien où, » dis-je en commençant à m'impatienter. « Ensuite, quel mal voyez-vous à ce que je sois allé embrasser mon père ?»« Le mal est de ne m'avoir rien demandé. Vous avez déjà dû voir que je n'aime pas beaucoup l'indépendance. »« Vous l'aimez du moins pour vous, » dis-je tellement blessé que ma timidité et ma crainte habituelles disparurent. C'est différent, ne changez pas la question. Tâchez de bien comprendre que votre mari est le maître en toutes circonstances. Et vous, dis-je irrité, tâchez de comprendre que vous avez épousé une femme sérieuse et raisonnable qui ne peut supporter qu'on la traite comme une enfant. C'était la première fois que je lui répondais sur ce ton. L'effet fut désastreux. Geneviève, s'écria-t-il avec un violent mouvement de colère. « Vous ne me parlerez jamais ainsi, sinon… »« Sinon quoi ? » dis-je en bravant. Mais la pensée que je courais au malheur traversa mon esprit et me causa une douleur si vive, un tel effroi, que ma colère tomba. Sans réflexion, cédant à l'impulsion de mon cœur, je me jetai dans ses bras en disant « Oh Louis, est-ce ainsi que nous devrions être après si peu de temps de mariage ? Ne m'aimez-vous pas ? Je ne demande qu'à vous plaire, vous le savez bien. Mais ne me découragez pas, ne vous fâchez pas pour rien. Après un peu d'hésitation, il se radoucit et me répondit tranquillement « N'en parlons plus, mais pas de scène d'attendrissement, Geneviève, je vous en prie. » Avant de rentrer, je restai seul un instant sur le pas de la porte, demandant à l'air pur, aux senteurs exquises, aux beautés du soir, pourquoi leur pouvoir mystérieux n'agissait pas sur le cœur de mon mari comme sur le mien.